France Musique. Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
Bizet doute de lui, c'est comme si vous y étiez. Cette fois, ce sera la bonne. Voilà enfin l'opéra qu'encensera la critique. L'opéra qui triomphera auprès du public, et pendant longtemps. L'opéra qui lavera mon honneur. L'opéra qui fera oublier ce qu'on appelle mes échecs. Cette œuvre nouvelle que Georges Bizet est en train de composer va lui ouvrir un avenir radieux. Il en est convaincu. Tout d'abord, il a choisi une nouvelle de Prosper Mérimée qui l'a enthousiasmé au point de la transposer à l'opéra. Et cette musique colorée, dynamique, une musique comme on n'en a jamais entendu. Une pépite greffée sur un drame, ma foi, qui en surprendra plus d'un. En mai 1873, Georges Bizet se sent très inspiré. Il vient d'achever le premier acte de Carmen et il en est assez satisfait. Le résultat lui plaît, autant que c'est possible. Car depuis ses dernières œuvres et ses derniers échecs, pourrait-on ajouter, il doute de façon maladive, un véritable handicap. Mais cette partition, on dirait qu'elle lui redonne du baume au cœur, lui fait croire à nouveau en lui. En réalité, son entourage doute également. Il y a un an, après l'échec de sa Djamilé, le directeur de l'Opéra Comique lui a commandé une nouvelle œuvre. Les deux librettistes prévus, Meillac et Halévy, qui aussitôt ont annoncé qu'ils allaient lui broder une chose gaie. Une chose gaie, c'est dit Bizet, gaie, oui, mais quelque chose qui permet le style. Alors il a cherché un sujet. Il a lu des romans, des pièces, il a tout écarté, doutant toujours du potentiel à la scène de ce qu'il avait sous les yeux. Jusqu'à ce jour où Carmen s'est imposée avec évidence. Voilà le sujet qu'il me faut. Carmen ? S'est écrié le directeur de l'Opéra Comique, la Carmen de Mérimée ? Est-ce qu'elle n'est pas assassinée par son amant ? Au milieu des voleurs ? Des bohémiennes ? Des cigarières ? Carmen à l'Opéra Comique, le théâtre des familles ! Une femme si indépendante, alors que nous avons tous les soirs 5 ou 6 loges louées pour des entrevues de mariage. Nous allons mettre notre public en fuite, c'est impossible. Mais comme Bizet ne voulait entendre parler d'aucun autre sujet, le directeur a supplié les 2 librettistes d'y aller doucement. « Je vous en prie, tâchez de ne pas la faire mourir. La mort à l'Opéra Comique, ça ne s'est jamais vu !» Bien entendu, Bizet a écouté les recommandations des uns et des autres, puis s'est mis au travail. Oui, cette œuvre sera d'un genre nouveau.
Hey yo, what the deal, Dan?
What the deal is, the niggas out there sleeping on you, Dan?
Et si Carmen ne plaisait pas au public? Ne pas plaire. Le doute s'installe de nouveau.
No apparent reason, I jump up and beat ya. With the sound channeling through your receiver out your speaker. Sit back, relax, you need to take a breather. Kick it with my body and so make it like Anita. Standard operator procedure, smoke this reefer. Keep it off the beat, rock or can just walls and a meter. No wives, eat the microphone heater.
Et s'il n'avait pas visé juste, si sa nouvelle partition n'était pas comprise comme les précédentes, si les chanteurs et les musiciens n'étaient pas à la hauteur, quel malheur ce serait. Non, impossible, impossible. Plus de doute à avoir, la musique de Carmen est une musique comme on n'en aura jamais entendue. Voilà les sentiments contradictoires avec lesquels Georges Bizet se débat. Il n'a même pas encore 35 ans. C'est un jeune compositeur, et le doute, ce terrible doute, le suit déjà depuis de nombreuses années. Depuis qu'il est né, presque. Un doute qui, comme souvent chez tout artiste, tout créateur, toute personne sensible, peut être le pendant d'un caractère bien trempé, bien affirmé. Mais, tout de même, ce doute revient de manière lancinante, le ronge. En 1868, il confie déjà à son ami Galabert « J'ai été souffrant, inquiet, découragé, accablé d'ennui, de travail et de soucis. Je traverse une crise, je suis démoralisé. » À la chanteuse Marie Trella, il a avoué être gagné par le spleen, du noir, du noir, du noir. Du noir. Quel qualificatif étonnant pour ce créateur, dont la musique est si colorée, si pétillante, si ensoleillée. Mais qui comprend vraiment sa musique? Qui l'apprécie à sa juste valeur?
We'll be right back.
Bizet aurait pu faire une grande carrière de pianiste. Lui, le virtuose, que Liszt en personne avait félicité publiquement. Mais déjà, il voulait le théâtre. « Je ne suis rien sans lui », affirmait-il. Pris de Rome, il aurait pu écrire des symphonies, des concertos, de la musique de chambre. Mais non, les trios, les quatuors, les quintettes n'étaient pas son univers. Depuis son enfance, il aime les histoires, les contes. Et la musique qu'il entend intérieurement est une musique expressive qui doit être associée aux mots. Une musique reflet de la vie et des passions humaines qui doit évoquer, suggérer, exprimer, occuper l'espace, vivre sur scène, peindre la comédie, le drame. Oui, Bizet veut du théâtre dans sa musique. Mais le théâtre veut-il de lui ?
Promenade au flambeau, c'est le vainqueur des courses de Grenade. Voulez-vous avec nous boire, mon camarade, à vos succès anciens, à vos succès nouveaux?
Bizet sait ce qu'il veut. Dans l'opéra, il a des goûts précis. Wagner est un poseur, un raseur. Il n'est pas davantage friand d'Auber ou de Boieldieu. En revanche, il aime Halévy, peut-être parce que c'est son beau-père, et passionnément Mozart. Ses opinions sur Gounod ou Massenet, disons qu'elles varient. Son défaut, affirmer ses idées sans retenue et ne jamais y aller par quatre chemins, quitte à se mettre les gens à dos, y compris les personnes influentes qui pourraient l'aider. J'ai quelquefois une forme brusque. Ma langue est une folle qui obéit plus à mes nerfs qu'à ma raison, dit-il. Et tout de suite, les doutes, le questionnement sont le revers de la médaille. Pendant son séjour à la Villa Médicis, auréolé pourtant de son prix de Rome, il se sent mal à l'aise. « J'ai un but, je sais ce qu'il y a de bien, ce qui est beau, il y a des moments où je crois y atteindre, et puis je vais me promener, gros nuages, et il faut recommencer à tâtonner. C'est irritant. » Je suis bâti pour la musique bouffe, croit-il lorsqu'il compose Don Procopio. Mais dès le lendemain, il se plaint. Je revoyais hier mon opéra Don Procopio et je le trouvais d'une faiblesse extrême. La création des Pêcheurs de Perles en 1863 laisse le public et la critique interdits, tant l'œuvre rompt avec les codes lyriques. Dans le Figaro, un journaliste donne le ton. Récompense honnête à qui pourra m'expliquer le sujet des Pêcheurs de Perles. La musique, constamment variée, annonce un maître, promis un brillant avenir pourtant. Elle n'est pas en cause. Ce sont les scories du livret qui empêchent l'ouvrage de trouver un public. Et après 18 représentations, les pêcheurs de perles disparaissent de l'affiche. Bizet déchante. Déception. Amère déception. La suite, c'est La jolie fille de Perse, en 1867, un opéra pour lequel il se rend malade. À la première, la presse est plutôt favorable. Ses talents d'orchestrateur et de coloriste sont soulignés. Mais rien à faire. Au bout de 18 représentations, comme pour Les pêcheurs de perles, cette jolie fille de Perse est retirée de l'affiche. Comment, dans ces conditions, persévérer ? Bizet a beau avoir conscience de sa valeur, la chute de ce nouvel opéra lui porte un coup terrible. C'est une injustice insupportable. Il se réfugia dans le travail et se prépara à la lutte, qu'il n'avait pas prévue si âpre, témoigne un ami. Mais il y laissa la fleur de la gaieté première, la belle confiance de son jeune temps. Et dès lors, je vis se marquer sur son front un pli soucieux qui ne devait plus s'effacer. Il faut monter, monter toujours, affirmait-il avant La jolie fille de Perse. Mais après, j'aime mille fois mieux mes regrets que mes espérances. Le souvenir d'hier, comme la projection dans l'avenir, le pousse à un sentiment d'échec, d'enfermement, de misanthropie. Je suis, depuis plusieurs jours, dans une période de découragement à tout point de vue. Depuis 6 semaines, je n'ai pu trouver une seule note de musique. Je ne sais trop ce qui se passe dans ma pauvre tête. Mais parfois, je me demande sérieusement s'il me reste une mélodie dans le cœur ou dans le cerveau. Je passe mes nuits à me demander si la vie n'est pas une cruelle plaisanterie, si l'intelligence, la sensibilité ne sont pas des vices de conformation morale dont il faut porter la peine. Je n'ai jamais ressenti un pareil dégoût. À quoi sert de continuer une semblable existence ? Je voudrais m'expatrier, fuir mes semblables. Ce milieu, soi-disant artistique, n'est qu'une fange. Vous ne pouvez vous faire une idée du degré d'affaissement moral où je suis tombé. Songez à ceux qui se noient dans un océan d'indifférence et de dégoût et faites-vous chaque jour un bonheur nouveau en songeant que vous êtes à l'abri. L'humeur sombre de Bizet passe par des colères fréquentes. Et quand il s'emporte, il est capable de gifler un camarade pour un rien. De se jeter sur un gondolier lors d'un voyage à Venise et d'essayer de l'étrangler pour la simple raison qu'il a appris la maladie de sa mère. Une fois revenu à la raison, « Je suis furieux car c'est ainsi que se traduit le chagrin chez moi. » C'est sûrement cette irritabilité extrême qui, en octobre 1867, fait s'interroger la famille Halévy. Leur fille Geneviève doit-elle se fiancer à Georges ? Les deux jeunes gens pourront finalement se marier en 1869, mais le mariage ne sera jamais vraiment heureux. Geneviève n'a certainement pas réussi à apaiser les souffrances de son Georges, « baby », comme elle l'appelle. Et les angoisses de Georges ont redoublé de violence après la mort de sa mère. Je me renverse dans un fauteuil et je crois voir entrer ma mère. Elle vient se placer à côté de moi et pose une main sur mon cœur. Alors l'angoisse augmente, j'étouffe. il me semble que cette main pèse si lourdement. Quelle est la véritable cause de ma souffrance ?
Avec vous et voyez là-dedans qui cause ce tabac.
Mais Bizet n'abandonne pas la partie. Il persiste à écrire de l'opéra. Il s'attelle à Namouna d'Alfred de Musset, qui devient Djamilé, opéra comique en un acte créé en 1872. De jolies mélodies, vivantes, alertes, parées d'une robe orchestrale qui scintille et respire avec naturel. Toute vertu, dira Nietzsche, capable de méditerraniser la musique. Mais à nouveau, c'est un échec. Dû cette fois à la soprano, sifflée par le public, le cauchemar se poursuit. Où est sa responsabilité ? Où est sa faute ? Après Djamilé, Bizet a entrepris Carmen, à présent terminée et livrée à la vindicte populaire. Est-ce qu'enfin cet opéra saura le réconcilier avec le public, la critique ? Cet ouvrage le rendra-t-il enfin heureux ? Il est découragé, fébrile, exalté. Il ne sait plus trop. Les répétitions de Carmen se passent mal. Pendant des mois entiers, l'orchestre et le chœur se plaignent d'une partition impossible à jouer, trop difficile. Bizet résiste. Certains artistes le soutiennent, mais le directeur de l'opéra comique semble ruiner ses efforts. Comment le public pourrait-il souffrir un drame sanglant sur ma scène ? Il prophétise un échec. Le 3 mars 1875, à l'Opéra Comique de Paris, Carmen est créée dans un parfum de scandale. Le premier acte fait de l'effet, mais à minuit 35, quand le rideau se ferme sur le dernier acte, Bizet est plus seul que jamais. À mesure que la soirée a avancé, l'accueil a été distant, puis froid, et pour finir, glacial. Calme en apparence, mais refoulant au fond de son cœur la douleur profonde qui le poignait, Bizet sortit l'un des derniers. Toujours maître de lui, serrant les mains qui se tendaient, nombreuses et sympathiques, il prit le bras de Guiraud, l'ami cher entre tous, et, errant jusqu'à l'aube à travers ce Paris qui venait de méconnaître son œuvre, il déversa dans le sein de son ami toutes les amertumes de son cœur.
Thank you.
Un échec de plus. Le dernier pour Georges Bizet, qui meurt d'une crise cardiaque durant la 33e représentation de Carmen, le 3 juin 1875. Il n'a que 37 ans.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
Il me faut le théâtre, sans lui, je ne suis rien, écrivait Bizet. Voici un florilège de quelques pages, depuis ses débuts jusqu'à la fin de sa carrière.
Amor.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
De Georges Bizet, nous avons entendu des extraits de La Jolie Fille de Perse par l'Orchestre National de l'ORTF dirigé par Jean Martinon, de Carmen par Georges Till, de Dom Procopio par Richard Boninge, puis par Maddy Mesplé, Alain Vanzo, l'Orchestre de la Suisse romande dirigé par Bruno Amaducci, des Pêcheurs de Perles par Julie Fuchs, l'Orchestre National de Lille dirigé par Alexandre Bloch, et enfin le Nocturne en Fa majeur par Jean-Marc Louisada. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr où vous pouvez également réécouter et podcaster ces émissions. C'était Bizet doute de lui, réalisation de Géraldine Prutner, avec Jean-Michel Coqui, Arnaud Chapat et Véronique Kerdiles. Comme si vous y étiez, avec la collaboration de Massimo Bellini, Valérie Lavalard et Margot Muller, vous donne rendez-vous samedi prochain à 17h sur France Musique. Au programme, Sibelius se mure dans le silence.
À réécouter sur francemusique.fr.